Nous allons lire les versets 13 à 22 du quatrième chapitre de Ruth. Est-ce que ça va?
C'est plus difficile de commencer à froid comme ça en plein milieu d'un culte qu'au début. Hein? Voilà les versets 13 à 22. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme, ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de David. Voici la postérité de Pérets. Pérets engendra Estron. Estron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Prions. Seigneur, merci encore une fois ce matin pour ce rendez-vous que tu donnes à ton peuple, à tes enfants, rassemblés dans ce lieu ce matin pour entendre, Seigneur, ce que l'Esprit a à dire à son Église. Seigneur, nous voulons non pas essayer de comprendre avec notre intelligence d'homme, mais nous voulons, Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, ouvrir notre esprit afin que ton Esprit puisse parler à nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, être enrichis par ta parole, mais surtout par celui qui est la parole, qui est la vérité, qui est le chemin et la vie. Bénis, Seigneur, ce moment que nous avons ensemble. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Ah, il est possible que nous avons presque tous vécu quelque chose dans notre vie qui dépassait finalement nos attentes. Et lorsque cela arrive à quelqu'un, bien, il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire, bien, j'ai l'impression de rêver, c'est trop beau pour être vrai. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Ou il y en a qui disent, écoute, pince-moi, je pense que je dors, je rêve. Ou c'est une expression qu'on entend assez souvent. Je ne sais pas si c'est déjà sorti de votre bouche, mais ça arrive. Quand quelqu'un vit une situation où, il n'aurait jamais pensé que ça aurait pu lui arriver, ben, il dit, écoute, c'est trop beau pour être vrai, j'ai l'impression de rêver. Alors, voilà. Il est fort possible que c'est l'impression que Ruth a ressentie lorsque vous lisez les derniers versets de ce livre ici. Elle se retrouve dans une situation qui est presque trop belle pour être vraie. Et imaginez, dans le chapitre 1, vous vous rappelez le premier chapitre? Dans le chapitre 1, Ruth portait des vêtements de veuve. Dans le chapitre 2, elle portait les vêtements d'une ouvrière. Dans le chapitre 3, elle porte les vêtements d'une femme vertueuse. Et dans le chapitre 4, elle porte les vêtements d'une épouse. Quel changement dans sa vie! Quel changement dans sa vie! Elle part de son pays, interdite. Interdite en Israël. Et elle va arriver avec un statut, le même statut que nous, celui d'être un enfant de Dieu, celui d'être adopté, passer d'une étrangère à devenir une citoyenne, passer d'une étrangère à devenir une héritière. Et on va voir à la fin que plus que ça, parce qu'elle sera la grand-mère fera partie de la lignée qui nous permettra de voir arriver Jésus un jour sur cette terre. Ce matin, alors que nous examinons les versets qui dévoilent de quelle manière Ruth est passée de la condition de veuve à celle d'épouse, j'aimerais vous rappeler qu'il y a certains parallèles entre son parcours et le nôtre, frères et sœurs. Et si les derniers versets de ce livre nous racontent comment tout s'est terminé pour Ruth, ils nous rappellent aussi comment tout cela va se terminer pour nous, qui sommes les serviteurs de Christ sur cette terre. Aujourd'hui, nous sommes ses ouvriers, et un jour, nous serons son épouse dans le ciel. C'est ce que la parole nous dit. Un jour, nous quitterons le champ dans lequel nous travaillons en tant qu'ouvriers pour être hébergés dans la maison du Père. Et ça m'a béni ce matin parce qu'à travers la présidence, à travers les champs, à travers même ce que notre frère Ernest a apporté, eh bien, ça rejoint finalement le message. J'étais assis, je me disais, ben ça va me donner quoi de prêcher ce matin, d'apporter la parole? Finalement, chacun a apporté ce que je devais apporter ce matin. Et souvent, je pense que c'est important de le rappeler. C'est vrai que la Sainte-Seine nous rappelle la mort de Jésus-Christ. C'est vrai qu'elle doit nous rappeler aussi sa résurrection, mais aussi elle doit nous rappeler son retour. Ça, c'est important. Le retour, j'espère que c'est votre espérance vivante aujourd'hui, ce matin. Je t'amène. J'espère que c'est votre espérance vivante. Toutes les générations de chrétiens ont sondé les Écritures, ont gratté à travers les versets pour voir, en espérant que ce serait dans leur génération que Jésus-Christ viendrait les chercher. Ce rêve magnifique, cette espérance merveilleuse de penser qu'on éviterait la mort et que lorsque le Seigneur viendra en un clin d'œil, on sera transformé, rendu semblable à lui et qu'on passera l'éternité dans sa présence. J'espère que c'est votre espérance vivante ce matin. J'espère. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh bien, là où vous êtes ce matin, et c'est pas, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas ici par hasard, le Seigneur veut vous parler, particulièrement à vous ce matin. Il veut vous donner cette espérance que j'ai reçue il y a plus de 27 ans. Il veut vous donner la même espérance que ceux qui sont ici ont, c'est-à-dire passer d'un royaume qui ne lui appartient pas pour entrer dans le royaume des lumières où Jésus-Christ règne. Et non seulement il veut régner, mais Jésus-Christ n'est pas un égoïste, et la parole nous dit que nous allons régner avec lui. Amen, nous allons régner avec lui, frères et sœurs. On passera pas l'éternité les bras croisés. Lisez l'Apocalypse, surtout les trois derniers chapitres. C'est extraordinaire. À partir du moment où il y a cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qui vont apparaître, où la Jérusalem céleste va descendre, où nous allons habiter ensemble, au milieu, hein, le Seigneur, pas de nuit dans la nouvelle Jérusalem, parce que la gloire de Dieu va éclairer cette ville. Et nous régnerons pour l'éternité dans cette ville extraordinaire que, dans ce monde extraordinaire que Dieu est en train de nous préparer. Oui, frères et sœurs, un jour, on va quitter le champ dans lequel nous travaillons en tant qu'ouvriers pour être hébergés dans la maison du Père. Nous sommes les héritiers de Dieu grâce à ce que Jésus a accompli pour chacun de nous. Et ce matin, j'aimerais examiner trois expériences que Ruth a vécues dans les derniers versets de ce livre qui auraient pu l'amener à se demander si ce n'était pas trop beau pour elle pour être vrai. Alors, premièrement, son attente, frères et sœurs, les versets chapitre 13, verset 3. On va partir de là, hein, chapitre 3, verset 13. Son attente correspond à notre attente, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait au moins des parallèles par rapport à ce que Ruth a vécu qui s'adresse à nous ce matin. Boaz dit à Ruth, « Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Ruth était appelée, frères et sœurs, à se reposer sur la promesse de Boaz qu'il prendrait soin de tout. Ce qu'il lui dit, en fait, c'est ceci. « Reste ici et repose-toi, je vais m'occuper de tout aujourd'hui. » Il lui fait la promesse que dès ce matin, ou le matin même, il va s'occuper de son rachat. Frères et sœurs, elle a dû attendre une nuit avant que Boaz puisse la racheter et que sa vie soit complètement transformée à partir de ce moment-là. Elle devait maintenant attendre qu'il revienne. Et encore une fois, c'était par la foi. Croire que Boaz lui disait la vérité. Attends mon retour. Attends-moi là. Je vais faire ce que j'ai à faire pour te racheter et attends mon retour. Ah, ça vous rappelle pas quelque chose, frères et sœurs? Ah, ouais. Combien il y a un parallèle extraordinaire entre ce que Ruth a vécu et ce que nous sommes appelés à vivre et ce que nous avons vécu aussi. En ce qui nous concerne, nous avons été aussi rachetés par Jésus. Et à partir de ce jour-là, notre vie a été complètement transformée. Et nous attendons maintenant le retour de Jésus-Christ et nous anticipons l'avenir glorieux que le Père réserve pour ses enfants. Il est parti et il a promis, comme Boaz, qu'il reviendrait. Et frères et sœurs, nous attendons son retour. Nous attendons son retour. Pourquoi? Pas parce qu'on est égoïste. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand la Bible dit que dans les derniers temps, le mal se répandra d'une manière épouvantable sur la terre, frères et sœurs, moi, je prie que le Seigneur revienne uniquement pour mettre fin aussi, pas uniquement, mais entre autres pour mettre fin à cette misère qui est à l'extérieur, les gens qui sont abusés de toutes les manières, des gens qui souffrent parce que le péché abonde dans le monde dans lequel on vit. Et frères et sœurs, l'Église, c'est le royaume de Dieu sur terre, frères et sœurs. Et les gens, quand ils nous voient, c'est pourquoi notre témoignage est important. Quand les gens nous voient, frères et sœurs, ils devraient aspirer à devenir des citoyens du royaume de Dieu. Dire, écoute, il y a quelque chose de ce côté-là que j'ai pas dans mon royaume des ténèbres. Il y a quelque chose dans le royaume de lumière que je veux avoir. Il y a quelque chose, cette paix, cette joie que j'aspire, à laquelle j'aspire, que le monde ne peut pas me donner. Il y a Mais je sais, j'ai la conviction que c'est dans le royaume des lumières que je peux recevoir. Les frères et sœurs, souvent la porte d'entrée, c'est vrai que c'est Jésus-Christ. Mais l'antichambre, frères et sœurs, c'est souvent notre témoignage. Est-ce que nous sommes des témoins fidèles du royaume de Dieu? Est-ce que nous donnons soif et faim aux gens de dire, écoute, entre dans ce royaume. Entre dans ce royaume. Dieu ne fait pas de favoritisme. Peu importe la vie que tu as vécue, peu importe le péché que tu as commis dans ta vie, Christ ne rejette personne qui vient à lui, frères et sœurs. Il n'y a personne dans cette salle ce matin qui peut lever la main et dire, moi, je méritais de devenir un enfant de Dieu. Personne. Si on peut lever la main, c'est de dire, moi, je méritais de subir la colère de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu m'a épargné cette colère, mais il n'a pas épargné son Fils. Oui, frères et sœurs, j'espère que votre grande espérance ce matin, c'est que Christ revienne. Il est beau de chanter qu'il est mort pour nous, il est beau de chanter qu'il est ressuscité pour nous à part, mais il est aussi merveilleux de se rappeler que Christ revient bientôt. Amen. Que Christ revient bientôt. Il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ce ne l'était pas, eh bien je le vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, et afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux. Je pense que je l'ai dit il y a deux semaines, cette phrase que Jésus dit, que le Père nous aime autant qu'il aime le Fils. Et Jésus, qui aurait pu dire, écoute, moi je suis le roi des rois, je n'ai pas de compte à rendre à personne, aurait pu, dans le royaume de Dieu, commencer à faire des classes de personnes comme ici, les pauvres, classe moyenne, la classe riche. Il nous met tous sur le même pied d'égalité. Il ne fait pas de favoritisme. Plusieurs passages qui nous disent que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il nous aime tous, d'une façon égale, tous. Et j'espère que c'est votre conviction dans votre cœur ce matin. Quand on entend une petite voix qui nous dit, écoute, je pense que Dieu t'aime moins que ton frère, que Dieu t'aime moins que ta sœur, ça ne vient pas du Seigneur, ces choses-là. C'est le diable qui veut vous rabaisser, c'est le diable qui veut vous décourager. C'est le diable qui veut vous neutraliser pour que vous soyez un serviteur dans le royaume de Dieu. Mais ayez cette certitude dans votre cœur que Dieu nous aime tous d'un amour égal. Amen. Jésus revient bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 7. C'est une promesse sur laquelle nous pouvons nous reposer. Boaz a dit à Ruth, chapitre 3, verset 13, « Reste couché jusqu'au matin. » Frères et sœurs, ne soyez pas découragés parce que le soleil se couche et que la nuit vient, car le matin finit toujours par apparaître. Verset 14 au chapitre 3. Ruth passa la nuit au pied de Boaz, comme Naomi lui avait dit. Elle savait qu'il ferait exactement ce qu'il avait promis. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler que Jésus est un refuge contre les vents violents et les mers déchaînées de la vie. Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, dit le psalmiste, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. Alors, pour m'avoir exaucé, c'est parce que le Seigneur m'a d'abord entendu. Le Seigneur m'a exaucé. Le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, les promesses de Dieu. Ça, c'est une parole de William Booth. D'ailleurs, on a chanté le dernier cantique, c'est un officier de l'armée du salut qui l'a composé. Cliff Bourne, c'est un ancien officier de l'armée du salut. Mais le fondateur de l'armée du salut disait ceci, « Les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. » Et vous savez ce que Dieu a fait à travers William Booth sur cette seule phrase? En l'espace de 10 ans, l'armée du salut a vaincu 90 pays. « Les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. » À chaque fois qu'il y avait un meeting, une réunion avec les officiers, c'était la phrase qu'il disait. Mes amis, les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. Et quand on y croit, on agit en fonction de ce qu'on croit. Et Dieu agit à travers William Booth. Et Dieu va agir encore aujourd'hui à travers vous. Amen. Oui. Il n'y a pas de meilleur endroit pour ceux qui souffrent que d'être à ses pieds. Demeurez à cet endroit où vous pouvez sentir jusqu'à quel point il est proche de vous. Où se trouvait Ruth pendant cette nuit? Au pied de Boaz. On dit souvent, venez au pied de Jésus-Christ. Oui, c'est là qu'on trouve le réconfort. Oui, on a le cœur rempli de colère. Il y a un échange qui se passe à la croix. Hein? Quand le Seigneur dit, déposez vos fardeaux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, on arrive avec notre paquet, ça arrive, hein, on arrive avec notre paquet, là. On est écrasé, on a le dos courbé, et on vient, et là on prie, on dit, Seigneur, voici, prends-le, et là on bouge plus, on est en silence, et là on se retourne, on repart avec nos fardeaux, quoi. C'est vrai, hein? Combien de gens me disent, écoute, j'ai prié, j'ai déposé mon fardeau, puis une heure après, j'avais l'impression que j'avais le même fardeau. Ouais. Il y a un échange à la croix, hein? Vous êtes en colère, ben venez raconter votre colère au Seigneur, il est capable d'encaisser votre colère. Il vous comprend mieux que moi, il vous comprend mieux que tout le monde ici. Mais il y a un échange qui va se faire. Vous lui donnez votre colère, il va vous donner sa paix. Et de la misère à aimer les gens, venez déposer ça au pied de la croix. Il va vous remplir votre cœur de son amour. Ouais. Il y a un échange qui se fait à la croix. C'est constamment ça. Un échange à la croix. Et ça, on a besoin de réaliser ça. La croix, c'est pas juste une... C'est pas juste, moi je reçois tout, vous recevez rien, quoi. Non. La grâce, elle est pour tout le monde. On vient déposer et Dieu nous remplit, quoi. Dieu nous remplit. En attendant qu'il revienne, trouvez une place à ses pieds. Prenez la décision que rien dans cette vie ne saurait vous distraire au point de vous faire quitter cette place privilégiée que vous occupez à ses pieds. Vous pouvez lui faire confiance, car Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Rien de ce qui arrive dans votre vie, dans la mienne, frères et sœurs, ne pourra empêcher Dieu d'accomplir le plan qu'il a pour vous et pour moi. Nous sommes appelés à garder nos yeux fixés sur lui et à vivre pour lui. Nous sommes appelés à placer notre espérance en lui et à être prêts lorsqu'il reviendra. On a fait une étude biblique sur le retour de Jésus pendant des années. Hein? Ça a duré presque 2 ans. Pas juste le retour, mais beaucoup de choses. Et la grosse bagarre, c'était est-ce qu'il vient avant, est-ce qu'il vient pendant ou s'il vient après? Et vous savez, personnellement, je pense pas qu'on peut arriver à adopter une position très claire. Il y a des versets qui nous disent, qui peuvent laisser entendre que les trois choses peuvent être possibles. Mais je répétais continuellement, chaque fois qu'on était dans cette étude le mercredi soir, je disais, écoutez, ce qui est important, c'est pas d'avoir la conviction qu'il va venir avant les tribulations, pendant les tribulations ou après. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Si Jésus revenait aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que vous seriez prêts? Est-ce que vous seriez prêt à le rencontrer? C'est la question qu'on doit se poser. Oui. Et pas savoir à quel moment il va venir, mais plutôt être prêt, veiller et prier. Deuxièmement, son mariage correspond au nôtre. Verset 13. La nuit passée, le matin vint, et Boaz respecta sa parole. Il est écrit, Boaz prit Ruth et qui devint sa femme. Imaginez jusqu'à quel point ce moment doit avoir été spécial pour Boaz. Il aimait tellement Ruth qu'il l'a rachetée afin qu'elle puisse recevoir un nouveau statut. Je pensais d'étrangère, une femme maudite, une femme interdite, pour devenir une citoyenne, pour devenir quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu. Imaginez jusqu'à quel point ce moment doit avoir été spécial pour Naomi. Elle avait été la première à avoir vu les possibilités de voir se réaliser. Tout ce qui vient de se passer. Imaginez jusqu'à quel point cela doit avoir été spécial pour Ruth. Elle n'était plus une ouvrière dans son champ, mais une épouse dans ses bras. Il est écrit au verset 13, Boaz prit Ruth. Et le verbe prendre ici en hébreu signifie emporter, enlever ou transporter. Un jour, notre Boaz céleste, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous enlèvera pour nous emporter avec lui. Quelle image est-ce que Jésus-Christ fera lorsqu'il reviendra nous chercher en tant qu'épouse? Je peux seulement imaginer à quoi ce jour ressemblera lorsque Jésus reviendra nous chercher pour nous ramener à la maison céleste. Quand sonnera la dernière trompette, nous dit la parole, nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, car lorsqu'elle sonnera cette trompette, les morts reviendront à la vie pour être immortels et nous serons tous transformés. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ reviendront à la vie en premier lieu. Ensuite, nous qui serons encore vivants à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Heureux ceux qui ont été invités aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui ont été invités aux noces de l'agneau, nous dit la parole. Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Ce sera une scène incroyable, frères et sœurs. Ce sera un temps béni et ce sera un moment glorieux. Regardez-vous ce matin. Regardez-vous, là, un vis-à-vis l'autre. Regardez le visage, là, parce que tu es censé passer l'éternité avec ce visage ce matin. Ouais. Si vous avez cette espérance, si vous avez la certitude que Jésus-Christ est votre sauveur, eh bien, on peut se regarder et dire, hey, on a un bon bail à faire ensemble, hein? Ouais. Ouais. Magnifique, non? Et entre-temps, le Seigneur travaille dans nos vies. Il nous apprend à nous aimer les uns les autres. Il nous apprend à nous endurer. Il nous apprend à mordre sur notre chic. Il nous apprend à développer notre patience comme lui est patient. Il nous apprend à nous aimer comme lui nous a aimés. Il nous apprend à accepter l'autre tel qu'il est, comme lui nous a acceptés tel que nous sommes. Et heureusement qu'il est patient dans son école de formation. Et je l'ai dit en 13 ans, je l'ai dit plusieurs fois, la meilleure école de formation du Seigneur, ce n'est pas l'Institut biblique, ce n'est pas la faculté de théologie, c'est l'Église. Si vous passez à travers l'Église, vous allez passer à travers n'importe quoi. On accepte le Seigneur, et là, le monde, le ciel s'ouvre devant nous. Et on pense qu'en mettant les deux pieds dans l'Église, c'est le paradis. Non. L'Église est composée d'êtres humains. D'êtres humains, sauvés par la grâce de Dieu, appelés saints en Jésus-Christ, mis à part par Dieu, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux. Ça, c'est la meilleure formation biblique qu'on peut avoir. Ça, c'est l'école de formation du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans son Église, parmi son peuple, il y a de l'ivraie et il y a du blé. C'est pas moi juger qui fait partie de l'ivraie. C'est pas moi juger qui fait partie du blé. Le Seigneur le sait, il a dit qu'à la fin des temps, les anges à la moisson vont venir se séparer. Mais en attendant, on est tous ensemble. Et on est en formation. Et à travers vous, à travers moi, Dieu choisit de faire progresser son royaume à travers des hommes et des femmes sauvés par la grâce, par sa grâce. Le pasteur C.A. Blackmore, un des premiers prédicateurs à la radio aux États-Unis, prêchait un jour sur le retour du Seigneur Jésus. C'est à la radio. Il dit ceci. « Mes amis, nous avons une espérance glorieuse. Quand la Bible appelle une espérance bénie pour les chrétiens, il est écrit qu'un jour, la trompette sonnera que Jésus reviendra, nous chercher pour amener ses enfants à la maison. Chers amis, toutes vos souffrances et vos douleurs seront terminées, car vous recevrez un nouveau corps, dit-il, un corps glorifié. Et les membres qu'il vous manque seront remplacés, parce que nous serons comme Jésus lorsqu'il reviendra. » Et quelques jours plus tard, le pasteur Blackmore reçut une lettre d'une auditrice qui était clouée au lit depuis des années. Voici ce qu'elle écrivit. « Pasteur Blackmore, le message que vous avez donné sur le retour de Jésus fut une réelle bénédiction pour moi. Je suis paralysé depuis presque 25 ans et je suis parfois découragé. Je peux difficilement entendre le retour du Seigneur Jésus. Mais le fait de penser que je serai capable de nouveau de marcher à nouveau et qu'il n'y aura plus de chagrin là où il va nous amener m'a redonné de l'espoir. Je tenais à vous remercier pour votre sermon. Son fils Carl, qui était pianiste et soliste pour cette émission, a été tellement touché par le sermon de son père qu'il écrivit ce merveilleux cantique. Oui, Nathan, ce matin. Ta femme n'est pas là, hein? OK. Pour me traduire, bon, j'essaie de traduire, je voulais projeter ce cantique-là parce que c'est un cantique extraordinaire, rempli de paroles très, très profondes, style des ailes de la foi, mais ce jeune homme, il était vraiment touché par ce que son père avait apporté, et en anglais, c'est « Some golden day break », mais en français, j'ai marqué « un matin béni », quoi, ou « une aurore bénie ». Et voici que les paroles des deux premières strophes. « Un jour viendra » où il n'y aura plus de mort. Un jour viendra où il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Un jour viendra où le ciel s'ouvrira et Jésus reviendra. Ce jour-là, les choses anciennes auront disparu. Ce jour-là, il n'y aura plus de nuit. Et ceux qui habiteront dans la demeure de mon Père n'auront besoin ni de la lumière, ni d'une lampe, ni de celle du soleil. Parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Gardez vos yeux fixés sur lui, car ce jour viendra pour vous et moi. Amen. Ouais, quelle espérance. Malgré son passé, Boaz va accepter Ruth parce qu'il l'aimait. Et frères et sœurs, c'est extraordinaire que Dieu fait la même chose pour nous. Quel exemple, quelle image on a à travers Boaz. Et qu'est-ce qu'il va faire dans les chapitres, au chapitre 4, les versets 1 à 11? Il va tout faire pour pouvoir la racheter. Il va tout faire pour pouvoir la racheter. Elle, elle n'avait pas les moyens de se racheter. Mais lui, il avait les moyens. Et il l'aimait. Et il va la racheter parce qu'il l'aimait. Il va la racheter pas parce qu'il veut qu'elle devienne son esclave, pour qu'elle devienne son épouse. Les versets 1 à 11 du chapitre 4, c'est ce qu'il nous parle. Et lorsque le proche parent va ôter son soulier pour démontrer à Boaz que Boaz pouvait racheter Ruth, Boaz prend ce soulier et va le garder comme preuve qu'il était non seulement celui qui avait racheté Ruth, mais qu'elle avait été à tout jamais rachetée de sa vie passée. Il en est de même, frères et sœurs, avec Jésus. Malgré ce que nous étions, et parce qu'il nous aimait, nous avons été à jamais rachetés. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés d'une inutile manière de vivre que ceux qui vous ont précédés vous ont transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sacrifice précieux de Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. Frères et sœurs, il était le seul qui avait le moyen de vous racheter, de me racheter. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait. Parce qu'il vous aimait, parce qu'il m'aimait. Louons donc Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée en son Fils bien-aimé. Car par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Et Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné de ses péchés. Heureux êtes-vous, frères et sœurs, parce que Dieu décharge, vous a déchargé de votre faute et vous a pardonné de vos péchés. Parce que lui a pris votre faute et lui a pris vos péchés, il les a portés. C'était pas trop lourd pour lui, il les a portés. Ouais. Malgré qu'on vivait sans lui, malgré qu'on le méprisait, malgré qu'on baignait dans le péché, il a pris sur lui notre condamnation. Il a pris sur lui notre châtiment. Ça, c'est la folie de la croix. Ça, c'est le message évangélique, frères et sœurs. Sa grâce a tout changé pour ceux qui se confient en lui pour être sauvés. Nous n'avons pas un soulier aujourd'hui pour prouver que nous appartenons à Jésus. Nous avons quelque chose de mieux encore. Nous avons le Seigneur Jésus lui-même qui est assis à la droite du Père et qui est toujours vivant pour intercéder pour nous. Nous avons un avocat dans le ciel qui porte dans son corps les marques laissées par le sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour nous racheter. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous étions, pardon, et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous allons non seulement demeurer par sa grâce dans les lieux célestes, mais nous allons régner avec lui. Éphésiens 2, 6. Ah, extraordinaire! Frères et sœurs, vous êtes des fils et des filles du roi. C'est magnifique! Amen! Oui! Les derniers, et finalement, l'adoration qu'on porte ici à Dieu dans ce passage, chapitre 4, correspond au nôtre. En tout cas, il devrait correspondre à notre adoration. Après que le rachat a été conclu et que le mariage fut terminé, regardez ce qui se passe au verset 14. Les femmes qui étaient rassemblées ont commencé à louer et adorer le Seigneur. Remarquez ce qui les a incitées à louer. Les femmes dirent à Naomi, « Béni ou sois loué, l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Ah! Hey, frères et sœurs, quel sujet de louange ce matin? Quel sujet d'adoration ce matin? On pourrait dire les mêmes paroles presque que ce que les femmes viennent de prononcer. Loué, loué soit Dieu, loué soit l'Éternel, qui ne nous a pas mis de côté, qui ne nous a pas permis de passer à côté de celui qui pouvait nous racheter. Loué l'Éternel, béni soit l'Éternel. Ouais. Ce verset indique que Dieu a reçu la louange pour la transaction de rachat qui venait d'être complétée. Cette louange se justifie parce qu'il a mis sur pied le plan qu'il a amené Boaz et Ruth ensemble. Puissions-nous, frères et sœurs, ne jamais oublier tout ce que nous avons en Jésus. C'est parce que Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils pour nous racheter. Il est digne d'être loué à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et nous pourrions le louer en disant, hein, sujet de louange, Apocalypse chapitre 4, verset 11, Apocalypse chapitre 5, verset 12, il est dit, « Ô notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est parce que tu le voulais que nous existons et que la vie nous a été accordée. » Oui, c'est parce que Dieu le voulait. Et il continue en disant, « Ô Jésus, tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange, car tu as été mis à mort et par ta mort, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous un royaume de prêtres pour servir notre Dieu. Et nous régnerons. Et nous régnerons. » Quoi? Dans le ciel? C'est pas moi qui le dis. Apocalypse chapitre 5, verset 8. « Et nous régnerons sur la terre. Sur la nouvelle terre. » Amen. Ouais. Notre adoration est le résultat de notre amour pour Jésus. Plus nous comprenons son amour pour nous, et plus nous l'aimons. Et plus nous l'aimons, frères et sœurs, et plus nous l'adorons. Et j'espère que c'est votre cas ce matin. L'enfant que Boaz et Ruth ont eu ensemble s'appelait Obed. Il était le résultat de l'amour que Boaz et Ruth éprouvaient l'un pour l'autre. Et Obed signifie en hébreu littéralement « adorer » ou « adoration ». Et ce fils établissait la place que Ruth occuperait dorénavant en Israël, et il permettait à Ruth d'être liée avec la lignée royale, car Obed sera le grand-père du roi David, faisant ainsi de Ruth la grand-mère de David. Mais mieux encore, elle est mentionnée dans Matthieu chapitre 1, verset 5, comme étant une des descendantes de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur, et qu'il est difficile de cerner le Seigneur, hein, de le coincer, quoi. Nous, des fois, ça peut arriver qu'on ait un esprit légaliste, puis on dise, lui est digne, lui est pas digne, lui est plus chrétien, lui est moins chrétien qu'un autre. Hein. C'est extraordinaire que le Seigneur a trouvé le moyen d'aller chercher une étrangère dont le peuple est maudit et interdit pour faire en sorte qu'elle devienne la grand-mère du roi David et par le fait même qu'elle soit en ligne directe avec le Sauveur, avec lui-même, parce que c'est Dieu fait homme, Jésus-Christ. Avec le Sauveur Jésus-Christ. Incroyable, hein? Il y en aurait pu se dire, mais c'est pas possible, pas une païenne, quoi. Ouais. Mais c'est plus une païenne. C'est une femme qui appartient au peuple de Dieu. Et Dieu étend sa grâce sur tous. Dieu limite pas sa grâce, il l'étend sur tous. Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Et Ruth va faire partie. Va être une des descendantes de Jésus-Christ. Et ce petit enfant bouleversera complètement la vie de Ruth. Ainsi donc, pour Naomi, pour Ruth et pour toutes les personnes impliquées, Obed est devenu quelqu'un, le texte nous le dit, hein, ici, verset 15, quelqu'un qui restaurerait l'âme et qui serait un soutien dans la vieillesse, sachant que ce fils serait une bénédiction pour tous. Frères et sœurs, nous pouvons adorer véritablement le Seigneur à partir d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lorsque vous connaissez celui qui restaure l'âme et qui est un soutien dans la vieillesse. Peut-être que ça fait des années que vous êtes chrétien. Peut-être que vous avez oublié qu'il restaure encore l'âme. Peut-être que vous avez oublié qu'il est un soutien dans la vieillesse. Venez encore à lui aujourd'hui. Ouais. Seigneur, j'ai complètement oublié ça. Moi, tu resterais, c'est toi qui avais restauré mon âme dans le passé. Et qu'encore aujourd'hui, tu peux restaurer. Oui. Et que même dans la vieillesse, tu seras un soutien. Si vous le connaissez, vous vous réjouirez de cela. Si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, alors vous avez besoin de savoir que vous pouvez le connaître, car le connaître change tout. Dieu nous a donné la vie éternelle qui nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils, nous dit la parole, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. S'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui n'est pas certain d'avoir reçu cette vie, vous pouvez la recevoir ce matin et c'est gratuit. C'est gratuit. Magnifique, non? C'est gratuit. Parce que si Dieu avait dû mettre un montant d'argent pour que vous ayez accès à son salut, au pardon de vos péchés, vous n'ayez jamais suffisamment assez de votre vie pour ramasser tout l'or et l'argent qu'il y a sur la terre pour pouvoir payer votre salut. Et aussi, pourquoi il est gratuit? Parce que Dieu ne voulait pas que ce soit réservé à une classe de gens, aux milliardaires et aux millionnaires. mais que ce salut soit réservé à tous. Et ça prenait quelqu'un qui était aussi sans péché, capable de prendre tous les péchés du monde sur lui, être sans péché. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Magnifique, n'est-ce pas? Qu'on puisse parler du royaume de Dieu, qu'on puisse parler du retour de Jésus-Christ ensemble. Avant de terminer, simplement vous rappeler. Et si je suis en avant aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça aujourd'hui. Quand j'étais... celui qui m'a amené au Seigneur, c'était, je l'ai déjà dit, hein, c'était vraiment un champion dans la main. Hein. Il m'a cassé en deux, le Seigneur a vraiment utilisé pour qu'il vienne me chercher et qu'il me mette, qu'il me confronte pour la première fois à l'éternité. Et quand j'étais confronté à l'éternité, que dans son salon, j'ai vu le sol s'ouvrir et je me suis vu plonger dans un abîme sans fin, perdu. Et là, je me demandais où je m'en allais, que j'ai crié, je dis, écoute, comment je peux faire pour sortir de là? Comment je peux faire? Il m'avait dit, va t'acheter une bonne Bible. Va dans n'importe quelle librairie, va t'acheter une bonne Bible, puis lis l'Évangile de Jean, quoi. Et quand j'ai eu ma réponse, hein, parce que le Seigneur a placé d'autres frères et sœurs sur mon chemin, qui nous ont emmenés à l'église, on a entendu le message, et on a pris cette décision. Après, on avait une faim, une soif de lire la parole. Et durant la semaine, on lisait la parole, et ce qu'on faisait, on prenait des notes. Parce que celui, le premier qui m'avait parlé du Seigneur, on avait gardé un contact avec, parce que je lui avais dit que le jour où je prendrais cette décision, j'irais le trouver pour lui dire, écoute, je vais te dire maintenant qu'est-ce que je dirais à Jésus si je comparais devant lui au ciel. Et j'étais allé le trouver, je lui avais dit. Ben, chaque semaine avec mon épouse et avec deux autres couples qu'on avait, avec qui on avait témoigné, qui étaient venus au Seigneur, deux jeunes couples, eh bien, chaque samedi soir, on allait le trouver. Et là, on arrivait avec notre paquet de questions. Et lui, finalement, écoutez, qui était un chrétien ordinaire, mais vraiment un chrétien qui a été persécuté, parce qu'à l'école, il était un des seuls protestants de son école primaire. Et là, je parle d'un milieu catholique, mais très, très dur. Eh bien, il a reçu des roches. Il n'a pas des roches, ici, on appelle ça des pierres. Il a reçu des petites roches parce qu'il était protestant. Et à un moment donné, on a voulu assassiner son père, sa famille, parce qu'ils étaient les seules familles protestantes dans la ville. Il a vécu des moments très, très difficiles. Il est passé par certaines persécutions. Et il a toujours gardé sa foi, il a toujours gardé sa joie et sa paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était vraiment stimulant, vraiment stimulant. Lui, tu le rencontrais, les yeux brillaient là, comme deux diamants. Et tu disais, hey, qu'est-ce qu'il y a, lui? Il y a dans ses yeux, il y a ce que j'ai toujours cherché, quoi. Il y avait cette joie, cette paix là, qui débordait. Et le samedi soir, on allait le trouver avec notre série de questions. Il prenait sa concordance et là, il s'assoyait dans le salon. On commençait à 7h30. À minuit, sa femme a nous préparé un repas et puis on continuait jusqu'à 4h du matin. On a fait ça à peu près pendant 6 mois. Quoi. Ouais. Et là, on lui donnait les questions. Et moi, quand je suis arrivé au retour de Jésus, je me suis dit, voyons, Jésus est mort, il est ressuscité, mais jamais dans ma religion, on m'avait enseigné que Jésus reviendrait, quoi. Et là, j'étais émerveillé comme un bébé, quoi. Et là, je lui ai parlé, mais il a commencé. Il a dit, on va fouiller les Écritures. On voit ce que les Écritures disent là-dessus. Et à un moment donné, au bout de plusieurs mois, j'ai dit, écoute, Réal, tu dois commencer à être fatigué de nous avoir à tous les samedis soirs. On te lâche pas, on te pose des questions, puis tu n'as pas toujours les réponses. Tu dois prendre ta concordance, fouiller, si tu veux. Il dit, non. Il dit, moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Il dit, vous ne pouvez pas savoir comment vous augmentez la flamme dans mon cœur. Il dit, je me revois quand j'ai accepté le Seigneur. Et il dit, écoutez, des fois, je marche sur une veilleuse, quoi. Hein? Vous avez ça une veilleuse ici, là, oui? Veilleuse, quoi. Il dit, là, je vous vois rentrer tous les samedis, vous posez des questions. Ah, les mêmes questions que je me posais. Ah, il dit, continuez, au contraire, continuez. Frères et sœurs, j'espère que c'est ça aussi que vous vivez, quoi. J'espère que dans votre cœur, vous ne limitez pas à avoir juste la veilleuse, quoi. Mais que le feu de l'Esprit vous enflamme jour après jour. Que vous priez pour ceux qui sont à l'extérieur. Que vous priez pour vos enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce qu'ici, il n'y a pas de nouveau ce matin. Hein? On est tous des bons. Parce qu'il faut se rappeler, on ne le dit pas souvent dans nos églises. Hein? Mais ceux qui ne prennent pas la décision, frères et sœurs, on parle de la mort éternelle. Hein? Et la mort éternelle, c'est qu'il va y avoir une résurrection à la fin des temps. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes, chacun va reprendre son corps, un corps glorifié. Chacun va reprendre son corps. Les uns pour passer l'éternité dans la présence de Dieu. Les autres, la bébé éclair, hein, en enfer, dans un lieu de souffrance. Et je pense que la plus grande souffrance, ça va être de voir tout ce qu'ils auront perdu pour l'éternité. Les frères et sœurs, la Bible ne nous fait pas de cachette, quoi. Et si on aime nos semblables, si on aime nos enfants, Bon, on doit prier pour eux jour après jour, pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie s'ils ne sont pas sauvés, qu'ils puissent se tourner vers Jésus-Christ, les yeux fixés sur Jésus, qu'ils puissent saisir qu'ils ont tout à gagner, à accepter celui qui est mort pour eux. Et non pas simplement se contenter dans un message d'évangile de leur faire accepter Jésus-Christ comme sauveur, mais surtout leur faire accepter que Jésus-Christ est aussi leur Seigneur. Jésus-Christ comme sauveur, c'est en l'espace d'un instant. Et Jésus-Christ comme Seigneur, ça peut prendre une vie. Une vie à accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Lui céder notre vie. Qu'il devienne le maître de notre vie. Qu'il nous enseigne selon les voies de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes un peuple, vous êtes le peuple de Dieu sur la terre. Vous êtes les représentants de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si ce matin on a des remords pour notre conduite, qu'on confesse, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Et qu'on puisse ensemble, tous ensemble, prendre un nouveau départ et dire, moi je vais être cette personne que Jésus-Christ va utiliser pour l'avancement de son royaume. Avec mes faiblesses, avec mes limites. Mais je veux qu'à travers moi, Jésus-Christ puisse manifester sa puissance. Et comme le livre de Ruth, je trouve que c'est un livre merveilleux en terminant. Elle était rien quand elle est arrivée. Premier chapitre, elle était rien. Et elle arrive au chapitre 4. Elle fait partie du royaume de Dieu. Elle fait partie de la descendance de Jésus-Christ. C'est pas extraordinaire, frères et sœurs? Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen.